France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les Juifs ont vécu ici plus de 350 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont construit cette ville avec leurs voisins de toutes les autres religions, musulmans, orthodoxes et catholiques.
Cette coexistence des Juifs et des musulmans en Bosnie-Herzégovine est une coexistence de paix, de respect. Ce n'est pas seulement une coexistence, c'est aussi un échange culturel.
Malgré la hausse de l'antisémitisme, Sarajevo a gardé une espèce de normalité, il faut le dire. Ici, nous nous sentons plus en sécurité que les Juifs de n'importe quel pays européen.
Sarajevo est parfois appelée la Jérusalem de l'Europe. Mosquées, églises et synagogues s'y côtoient. Et si la capitale de la Bosnie-Herzégovine compte plus de 80% de musulmans, elle a derrière elle une longue histoire de diversité religieuse et culturelle. La communauté juive, descendant majoritairement des séfarades venus d'Espagne, se mêle depuis des siècles aux bosniaques musulmans, aux croates catholiques, aux serbes orthodoxes et a laissé une profonde empreinte sur la ville. Avant la Seconde Guerre mondiale, un habitant de Sarajevo sur cinq était juif. Sous l'occupation, 80% de la population juive a été exterminée par les nazis et leurs alliés, les oustachis. Beaucoup de Juifs ont aussi quitté Sarajevo entre 1992 et 1995, pendant le siège de la ville par les Serbes attachés à la Grande Yougoslavie. Mais au cours de ces guerres, Juifs et musulmans ont fait preuve d'une grande solidarité allant jusqu'à se sauver mutuellement la vie. Réduite aujourd'hui à quelques 500 membres, la communauté juive de Sarajevo s'attache à sauvegarder et à transmettre ses pratiques culturelles. Mais l'antisémitisme et l'islamophobie montent en Europe, alimentés par les violences au Proche-Orient. Et la Bosnie-Herzégovine traverse une période de crise où les tensions interethniques sont ravivées. Les liens tissés entre communautés suffiront-ils à préserver le vivre ensemble? À Sarajevo, juifs et musulmans n'oublient pas leur histoire commune. C'est un reportage signé Mercia Nezic. Bonjour Mercia.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à l'occasion de ce reportage tourné à Sarajevo ?
Ce qui m'a marqué, c'est l'inquiétude pour l'avenir de la Bosnie de Jakob Finci, un homme très respecté à Sarajevo qu'on va entendre dans ce reportage. Ancien juriste, ancien ambassadeur, militant des droits de l'homme, Jakob Finci déplore les blocages qui paralysent le pays 30 ans après la fin de la guerre. La constitution de la Bosnie, c'est l'une des plus alambiquées du monde. Elle entérine la division du pays sur des bases ethniques. Jakob Finci a d'ailleurs fait condamner la Bosnie pour des dispositions constitutionnelles jugées discriminatoires. Une affaire qu'il avait portée devant la Cour européenne avec le leader de la communauté rome, Dervo Sejdic. C'était en 2009, mais rien n'a changé depuis. En Bosnie, un juif ou un rome ne peuvent pas accéder à certaines fonctions politiques. C'est à cause des accords de Dayton qui ont été signés en 1995 pour mettre fin à la guerre, mais qui n'ont jamais été réformés. Depuis, le pays est divisé en deux entités, la République serbe de Bosnie et la Fédération. Donc la Bosnie, qui est formellement composée de trois peuples constituant les bosniaques musulmans, la moitié de la population, les Serbes orthodoxes et les Croates catholiques. Le pays est doté d'une présidence collégiale, donc avec un Bosnien, un Serbe et un Croate, donc à la présidence collégiale. Pour l'instant, le pays est trop fragmenté pour dégager un consensus réformateur. Les dirigeants de la République serbe de Bosnie, notamment, restent très hostiles à un renforcement de l'État central.
Nous sommes en ligne avec le journaliste Rémi Ourdan. Bonjour.
Bonjour.
Grand reporter au Monde, vous avez vécu comme correspondant de guerre le siège de Sarajevo et vous avez gardé des liens très forts avec cette ville où vous retournez régulièrement. Et nous avons également invité Vladimir Fichera, historien spécialiste du monde slave. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui à la retraite, vous avez été professeur d'histoire contemporaine de l'Université de Strasbourg. Vous êtes par ailleurs poète et traducteur de poésie bosnienne. Nous y reviendrons, mais nous écoutons d'abord le reportage de Mercia. Il commence à la synagogue de Sarajevo, un soir de Shabbat.
C'est une tradition. Comme tous les soirs de Ramadan à Sarajevo, ce coup de canon annonce la rupture du jeûne pour les musulmans pratiquants. Pendant ce temps, à la synagogue de la ville, on célèbre le début du Shabbat. Le hazan entonne le chant liturgique. Devant la synagogue de Sarajevo, pas de soldats ni de policiers en armes, comme c'est le cas partout ailleurs en Europe. La petite communauté juive de la ville fait tout de même appel à une agence de sécurité privée. Le retour de la guerre au Proche-Orient a entraîné une montée des tensions, même s'il n'y a pas eu d'incident grave ici. Ce vendredi soir, quelques fidèles se recueillent, puis ils se réunissent autour d'un repas. Parmi eux, Jakob Finti, une voix très respectée à Sarajevo, ancien ambassadeur et militant ardent des droits de l'homme.
Ces œufs ont été cuits dans l'huile. Il faut les cuire pendant des heures. Ensuite, on peut les conserver en dehors du frigo. Ceux qui n'en ont jamais goûté ou vu peuvent avoir peur. Ces œufs sont un peu sombres à l'intérieur. C'est à cause de l'huile. C'est une tradition chez les séfarades. Les juifs ashkénazes n'ont pas cette habitude. Mais en France, il y a beaucoup de juifs qui ont des origines d'Afrique du Nord. Il y a aussi ceux qui sont arrivés après l'expulsion d'Espagne, quand nous sommes arrivés en Bosnie. Eux, ils ont traversé la Méditerranée. Nous, on est passé par la voie terrestre. L'expulsion, c'était en 1492. Certains sont partis avec Christophe Colomb pour le Nouveau Monde. D'autres sont allés en Bosnie. Nous ne savons toujours pas qui s'est trompé de direction. Mais nous, nous sommes satisfaits ici. Et eux le sont probablement un peu là-bas.
Les séfarades de Sarajevo, dont les ancêtres sont venus d'Espagne, possèdent un trésor inestimable, la Haggadah, qui raconte l'exode des Juifs d'Égypte. Un manuscrit juif vieux de 600 ans, l'un des recueils en hébreu les plus richement illuminés du monde. Les séfarades ont joué un rôle important dans le développement de la Bosnie, qui faisait partie de l'Empire ottoman. Ils ont apporté des connaissances médicales et pharmaceutiques très avancées pour l'époque. Les premiers avocats, les premiers agents immobiliers, les premiers hôteliers de la ville étaient juifs, beaucoup d'artisans aussi. Sarajevo s'en souvient. Jakob Finci a participé à un ouvrage collectif consacré à la coexistence entre les juifs et les musulmans de la ville. Le projet qui vient d'être publié a été conduit par la chercheuse Djevada Garic. Pour la rencontrer, nous quittons les quartiers austro-hongrois de Sarajevo pour aller dans la vieille ville ottomane. Là se trouve le siège de la communauté islamique de Bosnie, où Djevada travaille aussi.
Cette coexistence des juifs et des musulmans en Bosnie-Herzégovine est une coexistence de paix, de tolérance, de respect. Quand on parle de la coexistence, c'est quelque chose très émotionnel, très proche. Il y a beaucoup de mariages aussi entre les musulmans et juifs en Bosnie-Herzégovine. Par exemple, il y avait dans le 19e siècle, quand le premier restaurant kosher a été ouvert ici à Sarajevo, et il y avait un annoncement dans le journal. Et il disait que c'est le restaurant kosher pour les juifs et les musulmans.
Un restaurant kosher, en fait.
Kosher, oui, oui. Et par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il y avait des femmes juives qui ont porté la voile de leurs voisins musulmans pour partir de la maison, pour entrer dans les rues, pour aller même au cinéma, parce que ça a été interdit pour les juifs d'aller au cinéma. Elles ont pris les vêtements traditionnels de leurs voisines musulmanes pour aller au cinéma, par exemple. Ce n'est pas seulement une coexistence, c'est aussi un échange culturel. On voit, par exemple, il y a une prière juive dans la langue séfarde.
Le ladino, le dialecte des juifs de Bosnie venus d'Espagne.
Oui, c'est la langue séfarade, la langue ladino, et il y a encore des familles à Sarajevo qui parlent cette langue. Cette prière qui est pratiquée dans la synagogue ici à Sarajevo a été une part d'une chanson d'amour dans la langue bosnienne, qui est une langue slave. La musique séfarade est une part intégrale de la musique bosnienne.
La chanson exprime la douleur d'un amour perdu, une mélancolie qui est dans l'ADN de la musique traditionnelle bosnienne, la Sevdalinka. C'est le reflet d'un héritage multiple. D'ailleurs, la terrasse du bâtiment un peu en hauteur, où nous nous trouvons, offre une vue imprenable sur les mosquées, les églises catholiques et orthodoxes et la synagogue de Sarajevo.
Bielo ya
Sur une colline qui domine la ville, le cimetière juif de Sarajevo est un vibrant témoignage de siècles passés. C'est le deuxième plus grand cimetière séfarade d'Europe. Ici repose Zeki Effendi, un grand savant bosnien du 19e siècle. Partons sur les traces de ce spécialiste des textes islamiques et de la poésie perse notamment.
Dobar dan.
Bonjour.
Je suis le docteur Eli Tauber, archiviste de la communauté juive de Bosnie. Nous nous trouvons au cimetière juif, séfarade de la ville. Nous sommes à côté de la tombe de Zeki Effendi, de son vrai nom, Moshe Raphaël Atias. Comme on peut le voir, c'est écrit. Ici repose pour l'éternité Moshe Raphaël Atias Zeki Effendi Raphaelovitch, le président de Evra Kadisha, qui est passé à l'éternité à l'âge de 73 ans. Pourquoi c'est important ? Son monument funéraire comporte des inscriptions en trois langues. Regardez. D'abord en bosnien. Ensuite, il y a la même inscription en hébreu. Puis il y a une inscription en turc, en alphabet arabe. Nous savons qu'un tel monument n'existe nulle part au monde. Il a terminé l'école secondaire ottomane ici, à Sarajevo. Ensuite, il est parti faire ses études à Istanbul. C'était le meilleur connaisseur de la langue turque en Bosnie. Il était le traducteur principal du turc en Bosnie. C'était au 19e siècle. En plus, c'était aussi un spécialiste des finances. C'est important de savoir qu'il était à la tête de Evra Kadisha, les pompes funèbres juives. Mais pas seulement. L'institution s'occupait aussi des vieux, des malades. Il était très fier de cette fonction. Il voulait que ce soit inscrit sur son monument funéraire, même s'il a occupé des positions beaucoup plus élevées au sein de notre société. Il était membre de l'administration municipale de Sarajevo. C'était un homme influent, mais il était important pour lui de mettre en avant qu'il était le président de Evra Kadisha.
Zeki Effendi veillait sur la mémoire juive de la ville. Pour le raconter, il faut convoquer les protagonistes du Purim de Sarajevo. Au début du 19e siècle, un gouverneur dépêché par Istanbul, nommé Mehmed Rusdi Pacha, fait arrêter plusieurs juifs influents et le grand rabbin de Sarajevo, Moshe Davon. Il les accuse de l'assassinat d'un derviche. À Sarajevo, un marchand connu de la ville, Raphaël Levy, donne l'alerte. C'est la révolte. Un certain Ahmet Bielavski prend la tête de milliers d'hommes qui se rendent jusqu'au siège du gouverneur à Travnik. Ils obtiennent la libération des prisonniers. Le pacha est rappelé à Istanbul. Moshe Davon lui passe à la postérité. Zeki Effendi y veille. Eli Tauber.
La légende raconte que Zeki Effendi devait subir une opération. Il était hospitalisé à Vienne. C'était compliqué. On se demandait s'il allait survivre ou pas. Malheureusement, l'opération n'a pas pu avoir lieu à cause du décès de son médecin. La nuit suivante, c'est ce qu'il a raconté, le rabbin Moshe Danon lui est apparu en rêve. Il lui a dit « Tu n'as pas besoin de te faire opérer, ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Il a décrit ce rabbin, qui était vêtu d'un turban et d'un caftan vert. Une fois guéri, il a décidé d'enquêter sur le destin de ce rabbin. Il a écrit alors ce que l'on appelle la Megillah de Sarajevo. C'est une sorte de prière. Au nom de Moshe Davon, les Juifs de Sarajevo implorent Dieu de les protéger parce que ce rabbin était un homme bon. Nous, nous disons que c'était un juste. Ce rabbin a décidé d'émigrer en Palestine, à Jérusalem, vers la fin de sa vie, parce qu'il était de coutume pour les Juifs qui en avaient les moyens les plus aisés d'y aller et de mourir là-bas. Le rabbin a dit à sa suite, « Si je meurs sur le chemin, enterrez-moi là où mon fesse, un chapeau ottoman, tombera. » Il est tombé de cheval et il est décédé près de Stolac. Sa suite est revenue à l'endroit précis où son fesse était tombé et c'est là qu'il est enterré encore aujourd'hui.
À cet endroit qui s'appelle Krajišnik, il y a un monument à sa mémoire, près de Stolac, et il est considéré comme un saint. Chaque année, des Juifs de Sarajevo s'y rendent en pèlerinage. Au mois de juin, ils récitent la prière écrite pour ce rabbin. Puis ils posent des pierres et s'y recueillent. Ils lisent quelque chose de beau.
Lire quelque chose de beau, c'est aussi ce que nous offrent les ouvrages d'Eli Tauber qui a écrit sur Zeki Effendi. L'historien, lui aussi, est l'un des gardiens de la mémoire juive de la ville. Eli Tauber anime avec sa femme une structure culturelle appelée l'association Agada. Abritée au sein d'une ancienne synagogue, elle accueille une galerie où des touristes débarquent ce matin.
Rentrez à l'intérieur, on va voir ça. Je m'appelle Enes Popara. Je suis guide touristique à Sarajevo. Je suis en ce moment sur le circuit juif de la ville. C'est une visite très populaire.
Ce matin, vous arrivez avec deux touristes américaines?
Voici deux touristes juives américaines. Je leur ai dit qu'il s'agit ici de la seule structure de ce type dans les Balkans. Des souvenirs, on n'en trouve pas ailleurs. Bien sûr, on va aller voir la tombe de Zeki Effendi. Ici, on trouve un livre à son sujet. Je veux juste leur montrer aujourd'hui.
Bonjour. Entrez. Je m'appelle Myriam Tauber. Cette galerie est entièrement consacrée à la judaïka. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'objets exposés. L'espace est pensé pour accueillir nos visiteurs du monde entier. Il y a des vases et naturellement des répliques de la Haggadah, des menorahs, des chandeliers de Hanouka, des objets liés à la tradition et la culture juive en Bosnie-Herzégovine.
Une tradition dont témoignent aussi les stèles funéraires. Le guide touristique s'arrête devant des modèles réduits pour l'expliquer aux touristes américaines avant de les emmener au cimetière juif.
La forme des tombes que nous allons voir est tout à fait unique. On ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Mais c'est une chance de pouvoir les admirer ici. Nous pensons que les musulmans et les juifs de la région se sont inspirés d'une ancienne tombe datant du Moyen-Âge en Bosnie, appelée Stečak. Les cimetières de tombes médiévales, Steči, sont classés sites de l'UNESCO. Aujourd'hui, le pays en compte trois, le pont de Mostar, celui de Vichegrad et les Steči. Nous pensons donc que les musulmans et les juifs se sont inspirés de cette forme pour leur tombe. Ils reproduisent la forme du Steček, celui qui est célèbre près de Stolac. On en trouve partout dans le pays, dans les Balkans, mais elles sont surtout présentes en Bosnie. C'est le témoignage de la Bosnie médiévale, du pays d'autrefois. La Bosnie a plus de 1000 ans.
L'histoire des Juifs et des musulmans de Bosnie, vous en pensez quoi ?
Je n'y connaissais rien. Je sais ce qu'a été l'Holocauste dans de nombreuses régions d'Europe occidentale ou d'Europe de l'Est, mais je ne savais vraiment pas grand-chose à ce sujet ici. Et puis je suis fascinée par les histoires de musulmans qui ont caché des Juifs. Nous avons vu la photo de cette femme qui a couvert de son voile l'étoile jaune de son ami pendant l'occupation. Incroyable. C'est très important aujourd'hui, car l'histoire est en train d'être déformée ou oubliée.
Cette mémoire subsiste encore dans les rues de Sarajevo. 85% des Juifs de la ville ont été assassinés pendant la nuit noire. Sous l'occupation, une grande partie de la Bosnie a été intégrée dans l'État indépendant de Croatie, dirigé par l'Ustaši Ante Pavelić, responsable de persécutions de masse contre les Juifs, les Serbes et les Roms. Nous arrivons dans les quartiers situés autour du bazar historique de Sarajevo, où vivaient autrefois beaucoup de familles juives de la ville.
Bonjour, je suis Rahela Djidic, présidente de la municipalité juive de Sarajevo. Je regrette que parmi tous les lieux joyeux pour les juifs de Sarajevo, nous commencions par un lieu triste, à savoir la Ilkadila Blava. C'est là que se trouvait la synagogue de cette partie de la population qui habitait les quartiers de Metaj, Bielave et sur les hauteurs de la ville. Il s'agit d'un édifice religieux qui a été nationalisé. Et comme vous pouvez le voir, il est dans un état déplorable. La partie où se trouve l'Aron Kodesh, c'est-à-dire l'armoire sacrée où est conservée la Torah, est sur le point de s'effondrer, là, vers les marches. Ce qui est triste, c'est que les Juifs ont vécu ici plus de 350 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont construit cette ville avec leurs voisins de toutes les autres religions, musulmans, orthodoxes et catholiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, se trouvait un camp de détention, malheureusement. C'est la raison pour laquelle nous n'aimons pas passer près d'ici. Nos aînés nous racontaient qu'ils pensaient qu'on les relâcherait rapidement. Les habitants de Sarajevo ne voulaient même pas passer par cette rue parce qu'il leur était difficile de voir leurs concitoyens dans une situation aussi terrible. Donc, regardez, en partant de la synagogue jusqu'en bas, jusqu'au centre de la ville, il y avait là un immense camp d'internement. Malheureusement, de là, nos concitoyens juifs ont été conduits à travers la ville, puis entassés dans des wagons à bestiaux ou des camions. Ils ont été emmenés vers des camps d'où très peu d'entre eux sont revenus. Mon père est parti avec d'autres jeunes gens en direction de Mostar. La Bosnie-Herzégovine était divisée entre la zone allemande et la zone italienne, et les Italiens étaient plus cléments, contrairement aux Allemands. Le régime qu'ils ont instauré avec les Oustachis visait principalement à détruire les Juifs.
Rahela porte le prénom de sa tante. Rahela Levi a été déportée à l'âge de 16 ans en Croatie à Jasenovac, un camp géré par les Oustachis, connu pour sa violence extrême. Une barbarie dont témoigne aujourd'hui la collection consacrée à l'Holocauste au musée juif de Sarajevo. Ici, un livre des noms recense les 12 000 juifs de Bosnie, une majorité de Sarajeviens, victimes du génocide. On y retrouve Vladimir Andrele, à la tête de la Benevolentia, une organisation culturelle et caritative juive. Une partie de la collection ici est dédiée à ceux qui ont sauvé des juifs pendant la guerre.
C'est la photo la plus emblématique du musée. Sur cette photo, une musulmane couvre avec son voile l'étoile jaune que les juifs étaient obligés de porter d'une de ses amies. C'est l'histoire de Zeynebe Adragey. Elle et sa famille ont sauvé la famille Kabilo en 1941. Ils ont réussi à les exfiltrer vers Mostar. De cette manière, ils ont sauvé leur vie. C'est une belle histoire parce qu'en 1993, la famille Kabilo, qui s'était installée en Israël entre-temps, a sauvé la famille Adragey à son tour. Ils ont réussi à les faire venir en Israël. Ils les ont sauvés pendant le siège de Sarajevo. Nous avons une cinquantaine de justes parmi les nations, des Bosniens et des Herzégoviens.
Le cas de cette femme est singulier. C'est la première femme musulmane reconnue juste parmi les nations.
C'est la première à avoir eu son arbre à Yad Vashem.
Yitzhak Rabin, l'ancien premier ministre israélien, a accueilli Zeynep Ardaga à son arrivée en Israël. Lorsqu'on l'a remercié d'avoir sauvé des Juifs, la vieille dame a répondu « J'ai sauvé des voisins ». Elle a sauvé des voisins. D'autres musulmans ont aussi sauvé la mémoire, la Haggadah. Le manuscrit a été caché des nazis par Dervish Korkut, le conservateur du musée de Bosnie qui abrite le livre de Pessah. Zeynep Ardaga a pu quitter la capitale bosnienne assiégée dans un convoi de la Benevolentia. L'organisation juive a ainsi réussi à évacuer quelques 3000 habitants de Sarajevo. Ils se sont réfugiés en Israël ou dans des pays de l'Europe occidentale. L'organisation a aussi distribué de l'aide alimentaire pendant la guerre et des médicaments, ce qui a sauvé la vie à des malades chroniques. Pour retracer cette histoire, revenons à la synagogue de Sarajevo, qui abrite les institutions juives. Jacob Finzi était à la tête de la Benevolentia, l'organisation caritative juive, pendant le siège de Sarajevo entre 1992 et 1995. Parfois, il accompagnait lui-même les convois de réfugiés pour faciliter le franchissement des checkpoints. À l'époque, la guerre qui faisait rage en Croatie s'approchait de la Bosnie. Il fallait se préparer. Jacob Finzi.
Tous nos médecins et pharmaciens ont dressé une liste de médicaments afin qu'une communauté de 1500 personnes puisse survivre pendant 3 mois. Un jeune médecin, particulièrement pessimiste, a même suggéré qu'on se procure des sacs mortuaires en plastique. Nous l'avons tous conspué en disant qu'on n'en aura pas besoin. Malheureusement, c'est justement ce qui nous a manqué pendant la guerre, car il n'y avait plus de planches pour fabriquer des cercueils pour enterrer les victimes. Les victimes de bombardements venant des collines autour de Sarajevo, quand le siège a commencé. Ils ont donc acheté une grande quantité de médicaments et les ont entreposés dans notre synagogue. Et avec le reste de l'argent, nous avons acheté des denrées alimentaires à longue durée de conservation. Le 6 avril, le conflit a éclaté à Sarajevo et en Bosnie-Herzégovine. Et à certains endroits, la guerre a commencé encore plus tôt. Le 1er mai 1992, Sarajevo était assiégé. Tout notre stock était entreposé ici, dans notre synagogue. On a immédiatement, là, à l'entrée, placé un pharmacien. La seule question qu'on posait portait sur le médicament dont vous aviez besoin. On n'a demandé à personne ni qui il était, ni de quelle communauté il était issu. Il n'y avait rien à payer, c'était humanitaire. C'est ainsi que nous avons commencé à approvisionner la ville en médicaments. 15 jours ne s'étaient même pas écoulés qu'un voisin, qui avait un commerce de l'autre côté de notre synagogue, est venu nous voir. Il avait été d'ailleurs à l'école avec moi. Il m'a dit, « Tu sais, c'est la guerre, je vais essayer de quitter Sarajevo et je vois que vous travaillez comme une pharmacie. Prenez mon local et transformez-le en pharmacie. » C'est ainsi que nous avons ouvert une première pharmacie que nous avons appelée la Benevolentia, du nom de notre organisation, un mot que les Bosniens ont bien sûr du mal à prononcer correctement. La Benevolentia est un ancien mot espagnol de ladino, qui signifie « bonne volonté ». L'officine a tout de suite été surnommée la pharmacie juive. Très vite, en ville, on se disait, pour tout ce dont tu pourrais avoir besoin, rends-toi à la pharmacie juive. S'ils n'ont pas ce qu'il te faut, ça veut dire que ce médicament est introuvable à Sarajevo, parce qu'ils ont tout. Puis, nous avons ouvert une deuxième pharmacie. Il y avait aussi un médecin. Il est venu nous voir et nous a dit, « Vous savez, je suis palestinien, vous êtes juif. Nous sommes presque cousins. Ce serait vraiment bien que vous ouvriez une pharmacie dans mon hôpital. La population de Dobrinja ne peut pas se rendre au centre-ville jusqu'à vos pharmacies. » Donc, nous avons ouvert une troisième, entre guillemets, pharmacie juive, dont le gérant était palestinien. Tout est possible quand on le veut et quand les gens s'unissent. Et en même temps, nous avons décidé d'ouvrir une cuisine collective avec la nourriture dont nous disposions pour pouvoir nourrir les gens qui réussissaient à arriver jusqu'ici. Nous préparions 330 repas par jour ici. À peu près 80 juifs venaient manger ici. Ceux qui résidaient dans les environs pouvaient venir déjeuner. Les autres, c'était d'autres citoyens de Sarajevo. Les premiers arrivés étaient servis. Nous étions une soixantaine à travailler au sein de la Benevolentia, 20 juifs et une quarantaine de leurs meilleurs amis. Les journalistes qui venaient ici demandaient souvent « Pourquoi des musulmans travaillent ici et pas ailleurs ?» J'aurais dit « Demandez-leur ». Pendant la guerre, nous avons survécu ensemble. Nous recevions de l'aide du monde entier, envoyée par des juifs et des non-juifs. Des gens parlaient des langues étrangères ici. Nous avons aussi mis en place des cours de langues pendant la guerre. Nous avons commencé à apprendre 5 langues. L'anglais, le français, l'allemand, l'hébreu et l'arabe. On proposait des cours d'arabe. La meilleure professeure de l'arabe à Sarajevo était juive.
Pendant la guerre, des juifs de Sarajevo réfugiés en Israël envoyaient leur propre carte d'identité pour qu'elle soit falsifiée, ce qui permettait à des bosniaques de sortir de la ville assiégée. Les juifs n'étaient pas considérés comme l'un des belligérants par les assiégeants.
Mes parents ont-ils eu de la malchance ou de la chance? Je dirais plutôt de la chance de mourir avant cette guerre. Ils nous ont laissé leur carte d'identité. Quand la guerre a commencé, c'était très pratique d'avoir un nom et prénom juif pour pouvoir quitter Sarajevo lors des contrôles. Je donnais leurs documents à ceux qui voulaient sortir de Sarajevo. Je leur disais « Essaie de changer la photo ». Ça va passer. Les gens avec les documents de mes parents ont quitté Sarajevo plusieurs fois. Leur carte d'identité faisait des allers-retours. Tout ça marchait très bien.
Trente ans après la fin du siège de Sarajevo, on distribue encore des repas à ceux qui en ont besoin à la synagogue de la ville, comme ce vendredi. Dans ce pays profondément fracturé, l'économie peine à se redresser et désormais un autre conflit bouleverse les habitants. Même si la vie à Sarajevo reste à peu près normale, la guerre au Proche et au Moyen-Orient a un impact. La majorité des habitants de Sarajevo sont en empathie avec les civils palestiniens. Nous retrouvons Rahela Djidic, la présidente de la municipalité juive de Sarajevo, à la synagogue.
Vous entendez là-bas? On est en train de préparer le déjeuner. À midi, les gens commencent à arriver. Donc, en plus de nos membres, nous avons aussi nos voisins, des personnes d'autres confessions. On ne regarde pas ça. Il s'agit de personnes socialement défavorisées ou des personnes âgées qui n'ont personne pour les aider.
Rahela, nous en parlions juste avant, les retraites sont très faibles en Bosnie. Même les personnes qui ont travaillé toute leur vie ont parfois besoin d'aide.
Les retraites sont très modestes. Les revenus sont faibles en général, mais malheureusement, les retraites sont très en décalage avec le coût de la vie. Il y a des intellectuels qui ont travaillé pendant 40 ans, mais qui, avec leur retraite, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels. Et nous sommes là pour les aider. Nos jeunes livrent un repas chaud aux personnes incapables de quitter leur domicile pour qu'elles puissent au moins avoir un repas chaud par jour. Il y a un grand nombre de bénéficiaires compte tenu de la petite taille de notre communauté. On avait mis en place une soupe populaire ouverte à tous, mais il y a eu une baisse des dons. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, nous sommes tous conscients du nouveau danger qui menace toutes les communautés juives. En Bosnie, nous comptons sur nos voisins pour assurer notre sécurité, mais aujourd'hui, une prudence redoublée s'impose. Nous sommes une ville où il y a des passages, des gens vont et viennent. Dans le monde, les cas d'antisémitisme sont en hausse. C'est le plus dur pour les jeunes, pour mon petit-fils et les autres. C'est très difficile de leur expliquer pourquoi quelqu'un les détesterait.
Une proposition du directeur du musée national de faire don des recettes liées à la Haggadah de Sarajevo au profit de Gaza a provoqué un tollé. Il a dû démissionner. Une conférence de rabbins européens prévue à Sarajevo l'année dernière a été annulée sous pression politique. Une déception pour les juifs de Sarajevo qui n'ont pas de rabbin. Un tag antisémite a été découvert devant le musée juif de la ville, où nous retrouvons Vladimir Andrelev, aujourd'hui à la tête de la Benevolentia.
Jusqu'au 7 octobre, le niveau d'antisémitisme restait faible en Bosnie et à Sarajevo. C'était surtout très limité aux réseaux sociaux. Les choses ont changé après le 7 octobre. Dieu merci, il n'y a pas eu d'attaque contre des sites juifs. À part ici, devant le musée juif. Mais il faut que je vous raconte. Quelqu'un avait écrit un graffiti disant que les juifs ne sont pas les bienvenus, que nous devons quitter Sarajevo. Une dame, musulmane pratiquante, est venue, elle l'a effacé. Cela ne représente pas les valeurs de Sarajevo. Il n'y a pas eu d'attaque contre des lieux ni d'attaque physique contre la communauté juive. Mais il y avait des insultes sur les réseaux sociaux contre des notables juifs. Il y a eu des menaces.
Vous avez été menacé ?
Oui, j'ai reçu des menaces. Je ne suis pas le seul, mais les institutions font leur travail. Très vite, l'auteur du délit a été retrouvé.
À Sarajevo, il y a souvent des manifestations de soutien à Gaza. Mais jamais devant les institutions juives par respect.
C'est vrai, il y a souvent des marches ou des manifestations pour la Palestine, mais jamais à proximité de sites juifs. Les organisateurs évitaient cela pour que des gens n'aient pas toutes sortes d'idées. On peut envoyer de beaux messages de Sarajevo. Malgré la hausse de l'antisémitisme et tout ce qui se passe, Sarajevo a gardé une espèce de normalité, il faut le dire. Là où nous nous trouvons, devant l'ancien et le nouveau temple, il s'agit de bâtiments juifs. Il n'y a ni la police, ni l'armée. Ce qui n'est pas le cas en Europe occidentale, ni en Occident en général. Ici, nous nous sentons plus en sécurité que les juifs d'Allemagne, de France ou de n'importe quel pays européen.
U Francuskoj ili bilo kojoj drugoj državi evropskoj. Sa
sobom. Il y a deux ans, les Juifs et les musulmans de Bosnie ont lancé un vibrant appel à la paix depuis Srebrenica, ville toujours hantée par le génocide de 1995. La présidente de l'association des maires de Srebrenica et Jakob Finci, né dans un camp de détention pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été les témoins de cet appel à la réconciliation.
À Sarajevo, juifs et musulmans n'oublient pas leur histoire commune. Un reportage de Mercia Nezic avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'historien Vladimir Fichera et le journaliste Rémi Ourdan sont les invités de ce grand reportage. Rémi Ourdan, en 2019, dans une série de reportages, vous aviez retracé l'histoire des Juifs de Sarajevo. Ce reportage que vous venez d'écouter, il fait remonter des souvenirs.
Oui, évidemment, c'est toute l'histoire de ces siècles de cohabitation et au XXe siècle, malgré les épreuves, la Seconde Guerre mondiale et le génocide, et ensuite le siège de Sarajevo, les Sarajeviens revendiquent d'avoir cultivé ce qu'ils appellent komšiluk, qui est une sorte d'art du voisinage. C'est-à-dire qu'on l'avait senti pendant le siège, mais pendant le siège où je vivais là-bas, tout était tourné vers l'opposition à l'armée serbe, et le fait que des bosniaques musulmans, des croates, des serbes, et de manière plus marginale des juifs, se battaient ensemble contre l'armée serbe pour préserver la vie ensemble dans Sarajevo. Mais à l'époque, j'avais remarqué, dans un convoi d'évacuation juif, de la communauté juive, il y en a eu 8 pendant les deux premières années de la guerre, qu'il y avait des musulmans dans ces bus. Et donc, bon, ça m'a pris 20 ans, mais j'ai relancé cette enquête, effectivement, pour... c'était ça le point de départ d'une longue enquête, là, en 2019, dans le monde, sur l'art du voisinage à travers les siècles, et sur le fait que pendant la guerre de Bosnie, la communauté juive, comme c'était mentionné dans le reportage, a beaucoup aidé ses voisins musulmans et chrétiens, et beaucoup disaient c'est payback, c'est on rend l'appareil pour tous ces voisins qui nous ont aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à Sarajevo, le génocide bien sûr a été réalisé comme dans toute l'Europe, mais dans un degré quand même nettement moindre que dans le reste de la Yougoslavie de l'époque, beaucoup de juifs ayant été cachés par leurs voisins.
Dans votre enquête, vous aviez consacré un long article à la Haggada de Sarajevo. Toutes sortes de légendes circulent au sujet de ce précieux manuscrit. Est-ce que vous avez essayé justement de démêler le vrai du faux dans tout ce qui circule ?
Oui, alors sur... on sait qu'elle a été sauvée deux fois, donc... pendant la Seconde Guerre mondiale, par le bibliothécaire du Musée national, M. Korkut, et la seconde fois pendant le siège de la ville, par un historien, M. Imamovic. Et donc, il se trouve que les deux sont musulmans, donc ça rajoute encore le côté romantique, si vous voulez, de sauver ce trésor juif qui est vraiment la Haggadah séfarade la plus précieuse au monde. Alors, sur l'épisode du siège, il est très documenté et on sait comment Enver Imamovic a sauvé ce livre, avec un policier, avec un conservateur du musée et sous les bombardements. Pour la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de légendes. Effectivement, on sait que Dervish Korkut a sauvé ce livre d'un officier allemand qui était envoyé par Berlin pour, comme dans toute l'Europe, mettre la main sur les trésors juifs. Et ensuite, où a-t-elle été cachée pendant toute la guerre ? Alors là, il y a débat. Il semblerait, selon la famille Korkut, selon les descendants, parce que Dervish Korkut n'était pas un homme à se vanter et a très peu raconté cette histoire avant de mourir dans les années 60. Donc, il aurait été caché dans un village et peut-être même chez un imam, entre des Coran, donc ce livre sacré juif. Donc, légende ou réalité, en tout cas, Dervish Korkut, certainement, l'a caché à la campagne, chez des amis musulmans, et pourquoi pas un imam.
Milorad Dodik, le leader des Serbes de Bosnie, estime que la Haggadah doit être envoyée en Israël. Il affirme que Sarajevo est incapable de protéger le patrimoine juif. La Haggadah est instrumentalisée aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors Sarajevo a démontré pourtant depuis longtemps qu'elle peut protéger les trésors juifs et la Haggadah a été sauvée deux fois par des Sarajeviens et pendant le siège, pendant la guerre de Bosnie, elle a été sauvée aussi par l'État de Bosnie-Herzégovine parce qu'une fois qu'Enver Imamovic l'a récupérée dans les sous-sols du musée qui était inondé à cause des explosions et des canalisations qui avaient pété, il l'a remis à l'État qui l'a protégée pendant toute la guerre dans les coffres de la Banque Centrale et à la fin de la guerre, je m'en souviens très bien, j'étais là à cette cérémonie parce qu'il y avait tout un tas de rumeurs sur le fait que l'État de Bosnie l'aurait fait disparaître, l'aurait vendu pour acheter des armes, enfin de tout un tas de propagande contre la Bosnie. Et alors qu'elle est restée tout simplement dans les coffres de la Banque centrale pendant tout le siège et elle a été remise solennellement à la communauté juive pour le temps d'une journée pour Pessa justement, la Pâque juive de 1995 à la fin du siège. Il y avait une cérémonie très émouvante à la synagogue. Et ensuite, elle est retournée à la fin de la guerre, là, au Musée national, auquel elle appartient depuis la fin du 19e siècle.
Vladimir Figeral, quelle est à vos yeux la singularité des Juifs de Sarajevo ? Est-ce que c'est avant tout leur héritage, le fait qu'ils soient majoritairement séfarades ?
Oui, encore que les Ashkénazes ont triplé leur présence sous l'Autriche-Hongrie. Hein, ils sont passés de 2000 à 6000. Les Juifs à l'époque, et très largement, ils étaient du reste de l'Empire austro-hongrois. D'ailleurs, Vladimir Anderlecht, il a comme moi un nom tchèque, vous voyez. C'est typiquement tchèque. Donc, il y a aussi cette part centre-européenne. Hein. Quant aux séfarades, ils viennent aussi majoritairement, non seulement d'Espagne, mais via Salonique, qui est le grand partenaire commercial par la suite de Sarajevo, et notamment des marchands de Sarajevo, hein, avec une route qui relie Trieste d'un côté et Salonique de l'autre, en passant par la Bosnie, et également les zones maritimes des Dardanelles turques, notamment beaucoup de juifs sarajeviens venaient de Bursa, une splendide vieille ville ottomane des rebords maritimes de l'Anatolie.
Alors vous avez beaucoup étudié la période de la Yougoslavie communiste. Est-ce qu'elle contribue à expliquer la fraternité que l'on perçoit à Sarajevo ?
Oui, assez, assez largement, parce que le projet des musulmans bosniaques, hein, coincés entre l'Empire d'Occident, donc tout d'abord le Royaume de Hongrie, et de l'autre côté l'Orient, hein, c'est-à-dire en fait localement le Royaume de Serbie, et le projet des musulmans bosniaques, c'est d'être eux-mêmes, hein. C'est l'autonomie, l'autogouvernement. Alors, d'abord, il l'avait avec les rois qui toléraient les Bogomiles, la dynastie de Trotkopi, les Kostomanovic et d'autres. Et ensuite, l'Autriche a beaucoup aidé à l'établissement de cette communauté musulmane entre 1878
et... Oui, alors moi, je vous parlais de la période de la Yougoslavie communiste.
Après, ils sont sous la Serbie. Et ils font partie commune avec les non-serbes de Yougoslavie, le parti qui s'appelle l'Organisation musulmane de Yougoslave, car les Serbes imposent leur religion et leur centralisme étatique. Du coup, ils sont assez soulagés quand le royaume de Serbie s'écroule en avril 41. Et du coup, une partie d'entre eux fait cause commune avec l'indépendantisme croate à un moment. Mais ils en deviennent les victimes par la suite, notamment les persécutions, bien qu'il n'y ait pas eu de pogrom, mais il y a eu beaucoup de villages brûlés. Mais tout autant par les Serbes que par les Croates. Et donc, c'est l'autonomisme bosniaque qui va être capté par la résistance communiste à partir de 43, avec des brigades, puis des divisions musulmanes, et puis un des États fédérés de la Yougoslavie de Tito à partir de 45. Mais c'est toujours l'idée d'autonomie, et dès l'entre-deux-guerres, puis sous l'occupation en 41-43, les leaders naturels de la communauté, c'est-à-dire le clergé musulman, des villes principales, hein, Sarajevo, Prijedor, Mostar, Banja Luka, Bjelina et d'autres, font des déclarations de solidarité avec les orthodoxes et les autres concitoyens, les Serbes et les Juifs, dans les différents textes, hein, notamment celui de Banja Luka, qui sont persécutés à l'époque. Hein. Et là, on voit une tolérance extraordinaire, hein. Puisque ils sont soumis à l'autorité allemande et italienne.
Rémi Ourdan, pour qu'on comprenne bien cette société sarajevienne et la nature de ces relations interreligieuses, la religion à Sarajevo, c'est plus un marqueur d'identité qu'une croyance revendiquée.
C'est-à-dire que pendant la Yougoslavie, le pays étant communiste, la religion était très peu pratiquée. Donc vous voyez sur, par exemple, pour la communauté juive, bon évidemment, la plupart des synagogues avaient été détruites par les oustachis et les nazis, mais la grande synagogue ensuite, ce sont les communistes qui ont demandé à la communauté juive, qui l'a fait bien volontiers d'ailleurs, de la transformer en centre culturel, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de juifs après le Holocauste, et que la religion n'avait pas lieu d'être sous l'ère communiste. La religion est revenue un peu avec la guerre, évidemment, comme souvent dans les guerres, et notamment des mouvements nationalistes qui ont exacerbé les religions. Ça s'est senti très fort chez les Serbes, chez les Croates, et aussi chez les Bosniaques musulmans. Chez les Juifs, pas tellement, parce qu'ils n'étaient pas belligérants, ni cibles, pour une fois. Et donc, la communauté juive, il me semble pas qu'elle ait vécu un regain religieux pendant la guerre. Elle s'est, au contraire, donc, mise à la disposition des autres pour aider les gens de toute communauté, avec un franc succès, hein, parce que sur les 2500 évacuations de Sarajeviens assiégés, elle a évacué 1000 juifs et 1500 non-juifs, donc comme c'était raconté dans votre reportage, avec des faux papiers, mais avec succès. Il n'y a pas eu une seule personne tuée ou arrêtée à un checkpoint. Et elle a aidé la ville avec des convois d'aide humanitaire, elle a aidé la ville à survivre. Cette communauté n'a pas vécu, elle, de regret religieux. Il me semble pas qu'aujourd'hui ce soit non plus le cas chez les jeunes. Simplement, il y a un fort sentiment d'appartenance culturelle. C'est une communauté juive qui organise beaucoup d'activités pour les jeunes, etc., comme partout dans le monde, mais c'est sans doute une des moins religieuses d'Europe.
Et pour affiner justement cette singularité de ces communautés religieuses par rapport à d'autres pays, les juifs et les musulmans ne sont pas des immigrés récents. Ça joue aussi, ça?
Ah bah, c'est-à-dire que voilà, ils vivent ensemble depuis les premiers juifs arrivent au XVIe siècle. Donc il y a 5 siècles d'histoire partagée. Alors bien sûr, parfois mythifiée, romantisée, mais que ce soit sous l'Empire ottoman, sous l'Empire austro-hongrois, sous la Yougoslavie, la vie à Sarajevo, il y avait une douceur de vivre quoi entre communautés, hein, quel que soit l'occupant, le patron, le chef politique, etc. Et donc ça joue. Et pour les Juifs, alors pour eux seulement, puisque les autres communautés sont là depuis encore bien avant, pour les Juifs qui sont arrivés depuis le XVIe siècle, et c'est là la dimension séfarade très forte, c'est qu'il y a en plus, ils cultivent le mythe de Tolède, de Andalous, quoi. Et donc, de des siècles précédents où... dans le sud de l'Espagne, avant d'être expulsé par les rois catholiques, il y a un âge d'or de la coexistence et de la tolérance entre musulmans, juifs et chrétiens. Et donc ces juifs sarajéviens sont bercés par 5 siècles de présence sarajévienne, mais aussi par 5 siècles précédemment de Andalous. Et donc c'est une dimension évidemment très forte dans cette communauté juive, alors là, dans sa dimension séfarade.
Et alors, dans la série de reportages que vous aviez réalisé pour Le Monde, vous aviez mis en évidence les ponts qui existent entre les villes de Sarajevo et de Jérusalem. Les Juifs de Sarajevo sont attachés à l'État d'Israël. D'ailleurs, ils y ont souvent de la famille.
Alors, à l'État, ça dépend. C'est-à-dire que très fortement à Jérusalem, et bon, Israël les a accueillis pendant la guerre, ceux qui voulaient s'y réfugier. Certains sont restés dans les pays voisins, hein, Serbie, Croatie ou dans le reste de l'Europe, comme tout réfugié. Mais Israël a accueilli tous ceux qui le souhaitaient. Donc il y a évidemment tout juif de Sarajevo quasiment a de la famille en Israël. Mais il faut dire que sur les réfugiés du siège, beaucoup sont revenus quand même. Alors ça dépend de l'âge. Mais les jeunes... Les enfants, par exemple, qui ont été évacués vers Israël, ont grandi en Israël dans les années 90 et beaucoup sont revenus. Alors, ils sont souvent très critiques d'Israël parce qu'ils cultivent, comme leurs parents, cette idée du voisinage et de la tolérance entre communautés, etc. Et ces jeunes des années 90, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ils ont vécu pendant le processus de paix post-Oslo en Israël et quand certains ont été appelés à faire le service militaire ou ont fait le service militaire, se sont retrouvés dans un poste autour de Gaza, et puis ensuite avec l'assassinat de Rabin et le début de la deuxième intifada, beaucoup de ces jeunes sarajéviens devenus israéliens sont revenus à Sarajevo, c'est-à-dire que ils ont trouvé en Israël, même s'ils apprécient beaucoup l'accueil qu'ils ont reçu, même s'ils gardent des liens avec Israël, une culture tout de même assez différente. Et dans le reportage que j'ai prolongé donc effectivement en Israël, beaucoup sont assez critiques du fait de ne pas parler aux Palestiniens, de ne pas apprendre en leurs enfants une culture de la coexistence et de la tolérance. Et donc, ces Juifs sarajéviens, même proches d'Israël, je trouve, restent par rapport à d'autres communautés de la diaspora en Europe, très critiques de la politique israélienne.
Aujourd'hui, Rémi Ourdan, la Bosnie est fracturée, les tensions nationalistes sont fortes. Est-ce qu'on les ressent aussi à Sarajevo ?
Oui, c'est-à-dire que le problème de la Bosnie, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de problème d'antisémitisme ou de tension entre communautés à Sarajevo. Alors oui, il y a eu un graffiti là, il y a des flambées sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a un épisode très fort à Gaza, alors depuis 2023, a fortiori. Mais c'est limité aux réseaux sociaux. Dans la ville, tout va bien, beaucoup mieux que dans n'importe quelle ville d'Europe. Enfin, il n'y a pas de problème de sécurité pour les Juifs de Sarajevo. Il y a un problème qui dure depuis 1991 et qui est le prolongement de la guerre, c'est un problème politique, alors qui ne concerne pas la communauté juive, hein, qui concerne les mouvements politiques nationalistes serbes, croates et bosniaques, qui divisent le pays et qui sont dans l'après-guerre devenus des clans politiques, mais aussi mafieux et aussi autoritaires, voire dictatoriaux, et avec deux d'entre eux, serbes et croates, qui continuent à vouloir diviser le pays, Banja Luka, côté serbe, qui menace toujours de faire sécession, et en plus maintenant, avec un soutien très fort, non seulement de la Serbie, mais aussi de Vladimir Poutine, garde des fers au feu un peu partout en Europe où il pourrait attiser des tensions, donc notamment à l'aune de la guerre d'Ukraine. Donc les tensions, elles sont là, elles sont pas dans les communautés à travers dans la ville de Sarajevo, qui est plutôt un îlot de tolérance dans un pays qui a beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions politiques liées au nationalisme.
Alors justement, pour revenir un peu à la douceur de vivre, les échanges culturels entre juifs et musulmans ont été nombreux, hein, on l'a perçu à travers le reportage, Vladimir Fichera. Comment est-ce que ça se reflète dans la culture et dans la poésie?
Eh bien, il est évident qu'il s'est créé, à partir des années 60, une voix poétique yougoslave qui rassemblait autour d'une conception qui n'avait rien à voir avec le réalisme socialiste obligatoire de tout l'Orient, de toute la zone soviétique environnante, et qui était directement liée à la tradition du modernisme poétique européen, hein, l'influence du surréalisme. Beaucoup de surréalistes, d'ailleurs, notamment serbes, étaient francophones et francophiles. Et la modernité aussi de la poésie italienne, grecque, qui fait qu'ils étaient très, très en avance sur tous leurs voisins, qui étaient sous la férule russe, qui était une férule académique fin 19e, qui a complètement raté les avant-gardes du 20e siècle.
Mais donc,
et
comment
qui interdisait le vers libre. Le vers libre était interdit en Union soviétique, imaginez-vous. En Yougoslavie.
Comment est-ce que la poésie et la littérature reflètent les relations entre juifs et musulmans dont on a parlé?
Ah ben, très fortement. D'abord, la poésie se lit beaucoup plus, et c'est vrai pour toute l'Europe balkanique et orientale, qu'en Occident, hein, où vous remplissez des stades si vous êtes un grand poète, hein, jusqu'à aujourd'hui. Les poètes, d'ailleurs, souvent sont aussi des paroliers, des chanteurs en même temps. Et donc, il y a là, notamment chez ceux qui sont d'origine juive, ils sont pleinement intégrés dans la poésie sarajevienne, je dirais plus que bosniaque. C'est vraiment un phénomène sarajevien.
Vous avez un nom à nous proposer?
Ben, plusieurs que j'ai traduits, j'ai eu cet honneur. Josip Osti, qui est mort il y a 4 ans, qui était d'origine juive par son père, qui était d'ailleurs un juif de Slovénie, le grand-père. Du coup, il était par hasard en Slovénie quand la guerre a éclaté. Et il écrit dans les deux langues, le serbo-croate bosnien, il est cagné, hein, et le slovène. Et il a énormément aidé à faire sortir les juifs de Sarajevo autour de Benevolentia et du pen club slovène. Il y a aussi Finci, puisqu'on parlait de la famille Finci, Petar Finci, qui lui est beaucoup plus jeune, qui est né en 71, qui est un grand nouvelliste, poète, romancier, et il est un petit-neveu des Finci qu'on a évoqué, avec une maman d'ailleurs francophile et francophone, mais musulmane, Vera Arapovic, que j'ai connue, puisqu'elle s'occupait du centre de Strasbourg à Sarajevo. Et de même que Finci avait une épouse musulmane, sa première, qui est morte, puis la seconde, qui était la secrétaire du pen club slovène. Donc, vous voyez, c'était des gens d'origine juive, mais sarajevien plus que bosniaque. À Sarajevo, un couple sur trois est un couple mixte, alors qu'à la campagne, c'est zéro, voyez. Il y a une étanchéité charnelle, diraient les démographes, totale à la campagne et absente à Sarajevo. Bien qu'il y ait 80% de musulmans aujourd'hui, ils sont un sur trois et mariés à une non-musulmane.
Merci Vladimir Fichera et merci à Issy Cotentin à Cherbourg qui vous accueillait. Merci Rémi Ourdon. Le grand reportage de Mercia Nezic à Sarajevo, juifs et musulmans n'oublient pas leur histoire commune, a été réalisé par Annie Bro. Morgane Sanson était à la technique à Cherbourg, Guirec Corbin à Paris. Documentation Carole Roy et Véronique Le Fallaire. Vous retrouverez cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.